Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. Et ce soir, on parle avec SOS Homophobie, qui est un interlocuteur majeur sur ces sujets, puisque c'est une grosse association avec désormais 1400 adhérentes et adhérents. Et l'association vient de sortir son rapport annuel 2020, qui est construit sur les témoignages qu'ils reçoivent sur leur ligne d'écoute ou sur leurs différents sites, et puis sur leur activité de terrain, qui sont enregistrées et classifiées dans différentes thématiques dans lesquelles on va revenir. Et ce soir, je suis avec Sylvie Gras, qui est co-déléguée Île-de-France. Bonsoir Sylvie et merci.
Bonsoir.
Peut-être avant de rentrer dans malheureusement des mauvaises nouvelles, on peut d'ores et déjà le dire, peut-être un mot sur le positionnement et l'objet de l'association qui a récemment évolué, je crois, et sophistiqué, en tout cas la façon dont vous nommez les choses.
Alors, SOS Homophobie est une association qui a 26 ans, qui est nationale. C'est une association féministe et de lutte contre les LGBTI-phobies. Nous sommes répartis en une vingtaine de délégations sur le territoire, dont en Île-de-France, déjà historiquement. Et l'Île-de-France regroupe en gros la moitié des adhérents et adhérentes de l'association. Alors oui, nous nous intéressons à tout ce qui est aide, soutien auprès des personnes LGBTI, faire de la prévention en milieu scolaire auprès des adultes, et puis du militantisme également pour faire évoluer le droit et aller vers une société plus inclusive. Donc quand vous parlez oui de l'évolution de l'association petit à petit depuis 26 ans, l'association s'est développée, s'est enrichie en matière évidemment d'intervention, aide, prévention, militantisme, et également sur les thématiques qu'elle aborde. On a développé pendant un temps notre expertise sur la lesbophobie, on a ensuite développé la biphobie, la transphobie, et là on est en train de mieux aborder les questions aussi d'interphobie, puisque les personnes intersexes sont encore plus invisibilisées que d'autres.
Ben, on espère contribuer un peu à rendre la société plus inclusive en vous recevant ce soir. Alors, si on rentre dans ces mauvaises nouvelles, parce que les nouvelles ne sont pas super bonnes, les chiffres des témoignages que vous avez reçus cette année, donc qui sont basés sur l'année janvier-décembre 2019, sont en hausse de façon assez effrayante, même qu'on se le dise franchement.
Oui, je pense que nous ne nous attendions pas à une telle explosion des témoignages. Nous en avons reçu 2396. C'est une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Et ce qui est très marquant, c'est que c'est le deuxième chiffre le plus élevé dans l'histoire de notre association. Le chiffre le plus haut que nous avons atteint, c'était au moment des débats sur le mariage, où il y avait une explosion de haine. Et là, nous sommes sur une deuxième position qui est extrêmement marquante pour nous. Et évidemment, on relie ceci à l'actualité sur les débats concernant la PMA, qui ont fait en sorte que non seulement les lesbiennes ont été visées, mais également les hommes trans, même s'ils n'ont pas été sur le devant de l'actualité dans la loi, malheureusement, ils n'ont pas été inclus dans le projet. Et ça a permis un déferlement de propos ou d'actes plus généraux à l'encontre des personnes LGBT, voilà, des prises de position, notamment sur les réseaux sociaux, qui visent l'ensemble de la communauté et pas seulement les personnes concernées par le projet de loi.
Et si on devait essayer de trouver un peu d'autres explications, ou c'est un peu compliqué de parler comme ça, mais de tendance en tout cas, d'une forme de libération de la parole, est-ce que c'est quelque chose quand même que vous lisez à travers cette hausse de témoignages?
Oui, un autre point effectivement, c'est que on considère que certaines personnes se sentent beaucoup plus légitimes de pouvoir dénoncer les actes LGBTI-phobes, de pouvoir faire appel à la justice. à la condamnation de leurs agresseurs et agresseuses. Effectivement, on est dans un pays qui a des lois pour protéger les personnes LGBTI, même si on est d'accord, il reste encore du chemin à faire sur certains points, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, on n'est pas sur un pays qui condamne les personnes LGBT+. Donc ça, c'est un point important. On a vu notamment qu'il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes qui aussi ont témoigné dans certains contextes. C'est à la fois très positif de voir qu'ils et elles ne se laissent pas faire. C'est à la fois aussi inquiétant parce qu'ils vivent des actes d'agression, de discrimination. Donc, après, libération de la parole, il faut faire aussi attention. Je pense qu'à un certain moment, et même dans une histoire un petit peu plus lointaine, des personnes se sont exprimées mais n'ont pas été entendues suffisamment.
Et puis peut-être dernier point, et si on peut essayer de chercher un peu le positif, c'est aussi peut-être que votre association, elle est plus connue, elle est plus visible, vous faites plus de choses. On le disait, vous avez un nombre d'adhérentes et d'adhérents qui est impressionnant, vous êtes sur tout le territoire. Du coup, c'est peut-être aussi lié au fait que voilà, vous êtes plus connue, les gens connaissent plus votre ligne d'écoute ou vos sites. Ça vous permet aussi peut-être d'accéder à plus de gens qui témoignent.
Oui, le fait d'avoir un maillage territorial permet une action de proximité, de se faire connaître. Alors, on n'est pas dans l'ensemble des départements actuellement, mais on a une représentativité territoriale qui est quand même importante, avec 20 délégations, et ça permet effectivement de mieux sensibiliser les gens à la possibilité d'avoir un recours, d'avoir un soutien, d'avoir des conseils, d'avoir des orientations vers d'autres associations aussi qui existent. Donc c'est important, et le SOS Homophobie, à travers sa ligne d'écoute, et depuis 26 ans que nous existons, renvoie aussi sur l'ensemble d'autres associations, et ce maillage d'autres associations permet aussi, même si on n'est pas présent et présente dans un endroit donné, s'il y a par exemple un centre LGBT qui nous connaît et qui renvoie les personnes pour une aide vers notre ligne d'écoute en fonction de ce que ce centre peut faire en local ou pas, voilà, ça alimente et ça permet de trouver des solutions, bien entendu.
Alors, si on essaye maintenant de rentrer un petit peu, peut-être de sortir deux ou trois idées importantes, ou en tout cas messages qu'on a envie de porter avec vous ce soir, il y a globalement, ça fait un peu, enfin tout fait un peu flipper, mais il y a un chiffre qui est particulièrement marquant, c'est celui sur la violence à l'encontre des personnes trans, qui je crois est très marqué cette année, plus que les autres, et qui vraiment donne à voir une image, enfin c'est vraiment flippant. Je ne sais pas si vous avez peut-être un témoignage à nous faire lire, mais c'est dur, quoi.
Alors, sur les agressions physiques, effectivement, on a constaté 130% d'augmentation des témoignages concernant les personnes trans par rapport à l'année précédente. C'est extrêmement marquant. Déjà, il faut souligner le courage des personnes de pouvoir témoigner, de pouvoir réagir. On a eu à Paris le cas emblématique de Julia Boyer, qui avait été agressée place de la République, et qui a réagi et qui a eu énormément de courage aussi pour aller dans les médias parler de ce qu'elle avait subi avec énormément d'humanité aussi pour visibiliser également les personnes trans. On va rappeler malheureusement deux meurtres qui ont eu lieu. Vanessa Campos, c'était en 2018, c'est pas sur l'année 2019, mais juste avant, en 2018. Et puis cette année, le cas malheureusement de Jessica Sarmiento. Donc effectivement, les personnes trans sont particulièrement ciblées concernant les agressions physiques. Alors j'ai un témoignage que j'ai pas pris dans l'extrême de l'agression physique, mais qui se passe en Île-de-France. C'est un groupe de femmes qui, en sortant du métro, en même temps que Manu, donc qui est un homme trans, qui est proche de la trentaine, et elle remarque que son torse n'est pas plat. Donc elles se mettent à commenter à haute voix, à bien regarder, à constater, à dire qu'il n'a pas de pomme d'Adam, et à prendre à partie plusieurs autres personnes présentes. Elles vont se demander si sa barbe n'est pas dessinée au stylo. Et donc Manu s'est évidemment senti profondément humilié, déjà parce qu'il y avait plusieurs personnes autour qui se sont mises à le scruter, à se pencher comme si c'était une bête rare. Et ce que nous a dit Manu dans son témoignage, donc, c'est qu'il prend de la testostérone depuis maintenant 3 ans et que c'était la première fois qu'il vivait un événement aussi dur dans l'espace public. Donc c'est voilà un cas qui, malheureusement, d'interpellation dans les lieux publics, qui n'est là aussi pas rare.
Je rajoute simplement une petite précision, peut-être que j'aurais dû le faire avant, qui est effectivement que les témoignages sont anonymes et que les prénoms que vous donnez ne sont pas évidemment ceux des personnes qui ont contacté la ligne. Ça va de soi, mais je préfère quand même le dire. Il y a un autre sujet sur lequel la transition n'est pas évidente, j'avoue. Un sujet qui est intéressant, c'est que les lesbiennes témoignent toujours un peu moins que les hommes. Je crois même que vous avez fait une campagne d'information pour les inciter à le faire. Mais ce qui est intéressant et ce qui veut sans doute dire plein de choses sur la société, sur l'espace public, c'est que quand les lesbiennes sont agressées, c'est surtout lorsqu'elles sont en couple, de façon assez majoritaire.
Dans le cas, oui, des violences lesbophobes dans les lieux publics, on a constaté que la grande majorité, 58%, était due au fait que les femmes étaient en couple, c'est-à-dire qu'elles rendaient visible leur homosexualité ou bisexualité. Et évidemment, ceci pour les agresseurs, est quelque chose qui les heurte, puisque ce sont des femmes qui ne sont pas disponibles pour les hommes. Et puis, il y a évidemment, on ne peut pas ne pas penser à tout l'imaginaire qui est transmis par la pornographie avec, voilà, de femmes, c'est pas vraiment la sexualité, c'est là pour émoustiller le désir des hommes, et les hommes qui arrivent ensuite au sein de ce soi-disant couple pour finir l'histoire avec du sexe qui pour eux est le vrai sexe. Voilà, donc il y a un rejet de la sexualité entre femmes. Ces agresseurs qui se sentent rejetés dans la relation. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que quand les hommes, eux, sont agressés, ils sont plus agressés quand ils sont seuls dans l'espace public. Donc les femmes sont vraiment identifiées quand elles sont en couple. Et d'ailleurs, on a, en lien avec le confinement que nous venons de vivre, le fait aussi que des couples, des familles sortent ensemble dans un espace qui était relativement vide, ça a pu permettre aussi d'identifier pour des voisins et voisines beaucoup plus des couples lesbiens et des familles avec deux femmes. Okay.
Et si, alors les lesbiennes et les agressions physiques sont des thématiques transversales, j'allais dire. Il y a d'autres contextes, évidemment, on n'aura pas le temps ce soir de tous les lister, mais peut-être simplement d'en citer quelques-uns. Et je crois aussi qu'il y en a certains qui résonnent un peu plus avec le confinement, qui a aggravé peut-être certaines situations de la vie quotidienne notamment.
Oui, tous les contextes concernant la famille, le voisinage, le travail et donc les lieux publics que nous venons d'évoquer sont des contextes qui sont depuis plusieurs années les plus dénoncés dans notre rapport annuel. Alors, le premier contexte depuis de nombreuses années, c'est Internet, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on peut y voir aussi une vie publique. Elle est virtuelle, mais c'est aussi une vie publique et un espace public qui est particulier. Mais donc là, les personnes LGBTI sont concernées par des agressions, des discriminations, des actes dans l'ensemble de leur vie. Il n'y a pas de zone protégée, en fait. Et si oui, je peux, si ça vous intéresse, vous lire un témoignage concernant un cas de voisinage. C'est Lynn, qui est serveuse. Lynn est serveuse donc en région parisienne. Et elle nous dit que cela fait plus de 6 mois qu'elle et son amie subissent régulièrement les insultes et vociférations de leurs voisines. Et elles retrouvent leur voiture entourée de déjections canines. Alors, Lynn a déposé 3 mains courantes au commissariat. Elle a contacté son propriétaire, tout ça sans résultat. Le syndic de l'immeuble s'en est tenu à faire intervenir des services sociaux, en fait, qu'elle a éconduit au final. Et le soir où elle a appelé notre ligne d'écoute, en fait, le harcèlement a franchi un cap, puisqu'en descendant du bus, elle est tombée sur une affiche où il était inscrit « Couple de lesbiennes cherche plan cul », assorti de photos et d'informations personnelles d'elle et de sa compagne. Le numéro, le lieu de numéro de téléphone, lieu de travail, et donc elles ont eu des messages sur leur répondeur qui ont été nombreux. Et la fille de son amie, d'ailleurs, a été insultée à l'école. Donc, on voit l'ampleur que peut prendre une situation. Elles sont allées au commissariat et malheureusement, la personne qui les a accueillies a dit ne pas être en mesure de pouvoir leur venir en aide. Donc, il y a eu une accumulation extrêmement dramatique. Donc, nous espérons qu'en ayant contacté notre ligne d'écoute, on puisse faire avancer évidemment ce dossier-là. Donc, il est important pour les personnes de ne pas rester face à une fin de non-recevoir, mais à croire qu'on peut faire avancer les choses, même si c'est parfois long et épuisant.
C'est là que votre action prend vraiment tout son sens, j'allais dire, parce que du coup, vous êtes effectivement en mesure d'appuyer sans doute la demande de cette personne et de pouvoir faire bouger les choses, voire de d'aider avec un avocat, etc. Donc, c'est dans ces moments-là, ouais, dans cet enfer-là, qu'on réalise sans aucun doute que voilà, il faut vraiment des assos comme les vôtres. Un autre point... puisque c'est grâce à Internet qu'on peut se parler ce soir. Donc, Internet, depuis un petit bon nombre d'années, c'est vraiment un des premiers contextes, je crois, dans lesquels le déferlement de la parole se fait plaisir. Là aussi, vous faites un certain nombre d'actions. Je crois que vous avez saisi récemment, enfin, ressaisi en tout cas, réinterpellé un réseau social en lui demandant d'agir et de faire quelque chose sur les messages haineux.
Oui, c'est-à-dire que SOS Homophobie ne se limite pas à recevoir les témoignages concernant Internet. On est une association avec une priorité concernant les déclarations après analyse, évidemment, de notre part auprès de la plateforme gouvernementale Pharos pour qu'ensuite l'État puisse se saisir d'action. Et on a fait à 3 reprises des testings avec l'UEJF, donc l'Union des étudiants juifs de France, et SOS Racisme, des testings auprès des réseaux sociaux. Donc, il y avait Facebook, Twitter, YouTube. Et dernièrement, d'ailleurs, nous avons interpellé sur le fait qu'il y avait énormément de lacunes, voire une quasi-inactivité de Twitter pour réguler et mettre fin au déferlement de haine qui a lieu sur son réseau.
C'est ouais, donc ça bouge quand même pas des masses. Comme prévu, c'était absolument impossible d'analyser ce rapport en 15-20 minutes, et pourtant il y aurait vraiment plein de choses à dire. Donc je vais vous remercier, Sylvie, et puis je vais inviter celles et ceux qui nous écoutent à consulter le rapport qui est disponible sur le site de l'association, ou à retrouver aussi l'intégralité d'une table ronde que vous avez faite récemment, la semaine dernière je crois, autour justement de comment on lit ces discriminations-là à l'aune du confinement. Et on a évoqué un certain nombre de contextes qui sont particulièrement aggravés. Voilà, donc c'est disponible sur Facebook. Ça fournit plein d'éclairages super intéressants parce qu'il y a des sociologues, il y a d'autres spécialistes qui interviennent. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à se connecter, à aller voir ça. Et puis, je vais finir par vous féliciter, vous remercier pour tout ce que vous faites, voilà, pour toutes vos actions. Est-ce que vous souhaitez terminer sur quelque chose de particulier ?
Oui, j'aimerais bien. Merci beaucoup pour vos remerciements et ils iront à l'ensemble des bénévoles qui font les différentes activités de l'association. J'aimerais noter un point parce qu'on parle des témoignages, on a parlé de libération de la parole, du fait qu'il y a des gens qui réagissent et c'est très bien. Mais nous avons souhaité dans notre rapport parler de toutes les victimes qui sont invisibles, qui ne témoignent pas, soit parce qu'elles ont peur, soit parce qu'elles ne peuvent pas. Rappelons qu'il y a certains pays qui condamnent à mort des personnes LGBT. Voilà, nous avons rendu hommage à ces victimes et tout notre travail, ainsi que celui des autres associations qui militent pour l'avancée des droits, l'avancée vers une société plus inclusive, eh bien, est aussi dédié à l'ensemble de ces personnes. Et on espère que demain, eh bien, ça ira un peu mieux à la fois en France et à la fois dans le reste du monde.
Eh bien, merci beaucoup. C'était Sylvie Gras, qui est co-déléguée Île-de-France de l'association SOS Homophobie. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front.